Être un homme.
Cet ouvrage a été lu à plusieurs voix par 9 collaborateurs de la société Odigo qui s'est engagée aux côtés de l'Association des donneurs de voix dans un mécénat financier ainsi que dans la réalisation de plusieurs ouvrages collectifs au bénéfice des personnes empêchées de lire.
Thomas, c'est-à-dire que si M. Badi s'était juste allongé dans la fosse qu'il avait lui-même creusée et que tout était devenu sombre, tandis que nous aurions observé son visage impassible, regardant la pleine lune apparaître et disparaître derrière les nuages vaporeux, puis, au moment où éclatait un coup de tonnerre dans une obscurité telle qu'on ne le voyait plus du tout, jusqu'à ce qu'un éclair illumine de nouveau l'écran, que s'il avait été là, toujours allongé, les yeux grands ouverts, toujours de ce monde, toujours dans l'attente, comme nous le sommes nous-mêmes, pour être aussitôt replongé dans le noir jusqu'au nouvel éclair éblouissant dans lequel on aurait découvert que ses yeux s'étaient enfin refermés et que si l'écran s'était éteint pour de bon, ne nous laissant baigner que dans le bruit de la pluie de plus en plus forte jusqu'au moment où elle se déchaînait puis se calmait, si le film s'était terminé là, comme tout poussait à le croire, alors, a dit Romy, il ne l'aurait peut-être pas obsédé.
Patricia.
Je l'avais connu quand nous étions jeunes, puis nous nous étions perdus de vue pendant des décennies, jusqu'au jour où je la retrouvais dans l'un des camps de réfugiés. Il est des visages que le malheur change jusqu'à les rendre méconnaissables, mais il y a ceux qui possèdent quelque chose, un trait caractéristique peut-être, qui se révèle inaltérable ou indéformable face au temps, au déplacement ou à toute espèce de souffrance. Les yeux de Sophie étaient d'un gris profond qui, parfois, suivant la météo, virait presque au violet. La première fois que j'aperçus sa main silhouette dans la file qui serpentait le long du grillage, une couverture bleue drapée sur ses épaules, je fus incapable de me rappeler son nom ou même à laquelle des époques tumultueuses de ma vie elle appartenait, mais je reconnus ses yeux. Puis j'entendis sa voix et alors je me souvins. Et pendant le petit bout de chemin que nous fîmes ensemble, ce que je ne me rappelais pas ou n'avais jamais su, elle me le dit.
Laurent, il est aisé de comprendre ce qui a ramené mon père ici. Il l'est moins de concevoir la raison pour laquelle il en est resté éloigné pendant 20 ans. À la mort de ma mère, il est parti avec moi et a obtenu un poste d'enseignant à New York. Je suis entré à l'école et nous avons de moins en moins évoqué l'absence de ma mère, ainsi que notre vie d'avant. Je suis devenu une autochtone, tandis que lui n'a jamais été qu'un étranger. Et maintenant que je suis ici, dans sa ville, je me demande pour la première fois pourquoi il a attendu si longtemps pour rentrer, alors que j'avais grandi et terminé mes études. En ouvrant la porte de cet appartement dont j'avais toujours ignoré l'existence, j'ai été bouleversé par ce que j'ai découvert. Les murs couverts de livres, les tapis délavés que mon père avait dû acheter au marché, ses disques d'opéra, les étagères garnies de babioles rapportées de ses voyages, les boîtes à thé et les plats colorés dans la vitrine, le piano droit délabré avec Bach, encore ouvert sur le pupitre, jusqu'à l'odeur des épices dans la cuisine. Le lieu appartenait à mon père, cela ne faisait aucun doute.
Élise.
Mais à son arrivée, la chambre débordait de gens ayant des droits sur l'enfant, sa fille et sa compagne, l'homosexuel qui avait donné son sperme et le compagnon de l'homosexuel. Brodmann attendit son tour pendant plus d'une heure. Depuis le fauteuil roulant, impossible ne fût-ce que d'apercevoir le bébé complètement encerclé par ses procréateurs. Furieux, il sortit de la pièce, prit l'ascenseur dans la mauvaise direction, visita le centre de dialyse et suivit les panneaux conduisant à la cour de méditation où il passa sa colère sur un Bouddha trapu couvert de mousse. Comme personne ne venait, il décida de rebrousser chemin et de chercher querelle à sa fille. À son retour, la chambre s'était vidée. Mira lui mit dans les bras le bébé endormi, enveloppé dans des linges blancs. Retenant son souffle, il contempla les volutes parfaites et luminescentes des oreilles de l'enfant, qu'on eût dit peintes par Fra Filippo Lippi. Craignant de le laisser tomber, il tenta de déplacer le paquet dans ses bras, mais le bébé sursauta et ouvrit les yeux poisseux dépourvus de cils.
Olivier.
De ma chambre, je l'entendais appeler
quel que fût l'endroit de la maison où il se trouvait, encore qu'à la longue j'appris à reconnaître les sons qui précédaient une question, et, avant même qu'il pût demander quoi que ce fût, j'étais sur le pas de la porte. Si le téléphone sonnait, c'est moi qui répondais, moi qui savais s'il était en mesure de parler ou s'il fallait prendre un message, moi qui disais au cuisinier ce qu'il devait préparer pour le dîner, qui l'aidais à se coucher quand il avait trop bu, qui lui apportait son premier thé fumant le matin dans le bol du XVIe siècle envoyé par un admirateur japonais, moi qui lui tendais son crayon, son chapeau, sa canne, sa truelle, son couteau, moi qui arrivais avec la trousse de premier secours quand il se coupait, car il était, lui, notre plus grand architecte paysagiste et botaniste, dégoûté à la vue de son propre sang.
Amélie.
Salut, ai-je dit à la flanelle de sa chemise. J'étais inquiet, m'a-t-il confié. J'ai essayé de t'appeler au musée pour te demander de rentrer plus tôt. Pourquoi ? Il y a eu d'autres nouvelles ? Pourquoi tu ne m'as pas appelé sur mon portable ? J'avais acheté ce téléphone un mois après le 11 septembre, sur les instances de mon père. Mais ma mère et lui étaient les seuls à m'appeler dessus. Victor ne croyait pas encore à la possibilité d'être joint à tout moment. Non, il nous explique comment sceller les fenêtres avec du chatterton, mais ne disent pas pourquoi. Je vois ça. Les gens étaient en train de vider le magasin. J'ai attrapé ce que j'ai pu, a dit Victor. Je vais te faire à dîner, a-t-il ajouté en me mordillant l'oreille.
David.
Le père de Marie avait rencontré sa mère à Bangkok lorsqu'il était GI et l'avait ramené en Amérique, où il l'avait doté d'une Cadillac Seville et installé dans un ranch à Silver Spring, dans le Maryland. Lorsqu'ils divorcèrent, sa mère rentra en Thaïlande, son père déménagea à Boston, et pendant les 15 années qui suivirent, Marie fut ballottée entre les deux. Ces dernières années, elle avait vécu exclusivement avec sa mère à Bangkok, où elle avait un petit ami dont elle était follement, jalousement éprise et avec lequel elle passait des nuits entières à danser dans des boîtes, ivre ou shootée. Lorsque la mère de Marie, occupée par son propre petit ami et ne sachant plus à quel sein se vouer, informa son ex-mari de la situation, celui-ci extirpa prestement sa fille de Thaïlande et la transféra en Suisse, renommée pour ses institutions pour jeunes filles qui parachevaient leur éducation et les débarrassaient de leur côté indompté et ténébreux pour en faire des femmes aux bonnes manières.
Stéphanie.
Mes côtes ont tendance à se casser, lui répondit-il. S'il vous plaît, soyez prudente quand vous me démolirez. En d'autres termes, il savait parfaitement comment s'y prendre avec elle. Il l'attrapait, la retournait et l'attirait contre lui. Il savait la manœuvrer, connaissait exactement l'effet qu'un mélange de force et de vulnérabilité chez un homme peut avoir sur certaines femmes, dont elle faisait apparemment partie. En réalité, après ce bref échange, elle sut qu'elle l'inviterait chez elle et dans son lit. Lorsqu'elle arriva au restaurant, il était déjà là, comme les trains allemands qui sont toujours là, en attente dans la gare. Sa taille, une fois de plus, faisait sensation. Impossible de ne pas le remarquer car il dépassait d'une tête, ou même de deux, les gens autour de lui. Si quelqu'un, à ce moment-là, le serveur par exemple, qui passait tenant son plateau à bout de bras, lui avait demandé si elle aimait être contrainte de se sentir physiquement petite à côté d'un homme, elle n'aurait pu répondre que oui. Oui, mais avec un astérisque. Physiquement petite, mais spirituellement forte.
Camille.
J'ai cru que quelqu'un s'était trompé d'interphone, lui raconte sa mère. Ça arrive tout le temps. Quand le bébé de l'étage au-dessus est né, on a pressé mon bouton aussi souvent qu'on aurait pressé la chasse de l'unique WC d'une gare routière bondée. Mais finalement, tout le monde est parti, et depuis tout est calme à l'exception des hurlements du bébé. Les parents font de leur mieux, dit sa mère, mais quelquefois il leur arrive de se disputer. Ils étaient pourtant si heureux, si amoureux, avant, mais depuis la naissance du bébé, ils ne sont plus d'accord sur rien. « Ça me rappelle quelque chose, » dit Tamar, car le père de ses enfants et elle-même avaient cessé de s'entendre peu après la naissance de leur aîné, qui leur menait la vie dure, et avait malgré tout tenu 9 ou 10 ans avant de se séparer. Par la suite, Tamar et sa mère avaient vécu seuls, son père étant mort l'année précédente d'une crise cardiaque. Ils avaient été 4 dans la famille, sa mère, son père, son jeune frère et elle. Et pendant longtemps, trois d'entre eux avaient été mariés. Seul son frère était resté célibataire.